Rami Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre. On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. La transformation, voilà le très joli titre trouvé par Verivel pour cette émission. Ben oui, la transformation, la transfiguration, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tous les cas, on va beaucoup, beaucoup parler du changement d'entraîneur et des changements que ça a générés dans l'organisation et le visage global de l'équipe. Une petite pensée avant de démarrer pour Parazard qui est malade et qui ne sera pas parmi nous. Bon rétablissement, Parazard. Alors, ce soir, pour animer cette émission, à mes côtés, Verivel, l'homme de la technique. Salut Verivel.
Salut et salut à tous. Et je voudrais juste faire remarquer, en vous souhaitant tous une bonne année, que nous rentrons dans la 20e année de Poteau Carré.
Voilà. C'est l'info. 20e année de Poteau Carré, c'est beau ça. Vous savez que Poteau Carré est issu au moins en partie, enfin, le fils spirituel d'ASS Online. Ça avait commencé encore plus tôt. Bon. Poteau Carré, on rentre dans la 20e année, ça ne nous rajeunit pas. Avec nous ce soir également, Dissident. Salut Dissident.
Salut Osvaldo, salut à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Et merci, meilleurs vœux à tous. Effectivement, j'aurais pu commencer par ça, à tout le monde et puis en particulier aux supporters des Verts. Et enfin, avec nous ce soir, une fois encore pour notre plus grand plaisir, Pat. Salut Pat.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous, bonne année, meilleurs vœux à tous les potonautes. Effectivement, 20 ans, ça ne nous rajeunit pas.
Alors, on commence par quelque chose qui, un questionnement qui a peut-être enfin trouvé une réponse. Ce questionnement, c'était, mais d'où sort ce Horneland ? En tous les cas, c'est un questionnement que j'avais, je sais que je ne suis pas le seul, puisqu'on en avait parlé lors de la dernière émission. Comment ce garçon, alors quand même relativement inconnu, bon d'accord, il a coaché Brandbergen, il a commencé par descendre en deuxième division avant de remonter et de faire deuxième avec l'un des trois plus gros clubs de Norvège, on ne peut pas parler de performance extraordinaire. Comment ce garçon est-il arrivé sur la shortlist de Gazidis et compagnie ? C'était pour moi une vraie, vraie question. Et j'ai vu une vidéo de Florent Tognutti sur YouTube et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. On l'a tous vue, cette vidéo, et on commence à avoir une idée du pourquoi. Dissident, ce choix qui semblait obscur, au regard de la data, comme on dit maintenant, des stats, il commence à s'éclairer. Il semblerait qu'Horneland ait été choisi. Comme d'autres, comme Boakier, comme qui d'autre est arrivé comme ça, Benold, etc., sur les statistiques qui deviennent extrêmement importantes dans le foot moderne.
Oui, absolument. Alors, cette vidéo que j'ai eu la chance de pouvoir voir cet après-midi, je te remercie encore une fois du lien. Il faudrait qu'on le partage à tous les potonautes. Et c'était vraiment très, très riche d'enseignements. Puisque, effectivement, dedans, on voit que Brandbergen ne ressortait pas seulement parce que c'était une équipe qui arrivait à survoler le championnat de D2 de Norvège et arriver tout de suite deuxième du championnat l'année suivante, mais c'est surtout que cette équipe de Brandbergen, coachée par Horneland, elle sortait de l'ordinaire de toutes ses concurrentes européennes sur certains aspects très très data, très très tactique, très technique, notamment le pressing et l'intensité dans le camp adverse et vraiment la démonstration qui est faite par celui qui a présenté la vidéo dont le nom m'échappe mais que tu rappelleras après. C'était vraiment bluffant de voir que vraiment ce club-là ressortait vraiment des radars complètement par rapport aux autres. Hein. Et effectivement, je trouve ça hyper rassurant quelque part de comprendre, d'arriver à comprendre un petit peu comment est-ce que le nom d'Eric Horneland est remonté jusqu'à Kilmer, Gazidis, etc. Et quelque part, ça rassure aussi sur les autres recrues de cet été et de l'hiver à venir, des années à venir, en se disant, bah, effectivement, on sent qu'il y a du sérieux, on sent que les joueurs qu'on fait venir, l'entraîneur qu'on a fait venir, bah, c'est pas un hasard, c'est réfléchi. Et immédiatement, il a réussi à mettre, on en parlera un peu plus loin, il a réussi à mettre ses idées en place de façon qui, moi, m'ont totalement bluffé.
Oui, évidemment, on va en parler des idées d'Eric Horneland. Alors, celui qui a fait la vidéo, c'est Florent Tognuti, et on va vous mettre le lien dans le topic sur le forum. Alors, oui, effectivement, de l'intensité, du pressing chez l'adversaire, c'était, de ce point de vue-là, Brand Bergen sous Eric Horneland, la deuxième équipe la plus intense et faisant le plus… Bon, je vous passe les détails des modes de calcul, mais globalement, l'idée, c'est ça. Et faisant le pressing le plus abouti dans le camp adverse en Europe. La deuxième équipe. La première, c'est celle entraînée par Almeida. J'ai oublié laquelle c'était, mais…
La EK Athènes.
La EK Athènes, voilà. La EK Athènes, tout à fait. Merci, merci Pat. Alors Pat, justement, il y a ce choix d'Eric Horneland sur cet aspect précis. Et ça veut dire quelque chose quand même sur la politique générale de Kilmer, de Gazidis et compagnie. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose quand même sur leur feuille de route, sur leurs ambitions et sur la manière dont ils souhaitent les atteindre?
Eh ben, en tout cas, ça donne un peu de concret sur les discours qu'on a pu entendre jusqu'à présent, en disant qu'ils aiment, moi ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'ils souhaitaient avoir une équipe qui puisse s'inspirer du public, de pouvoir sublimer justement cet apport du public, sauf que ça restait très très abstrait. Et au final, quand on regarde effectivement c'est déjà ces deux premiers matchs, hein. Donc ça reste que deux premiers matchs, mais ça donne quand même une tendance assez incroyable par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et aussi ben, les trois années précédentes qu'a pu faire Eric Horneland dans son club j'ai oublié le nom du club, de Bram. Et ben, effectivement, ça devient concret. Et surtout, ce qui est quand même assez incroyable, c'est de voir cette équipe stéphanoise, justement, dont on reprochait justement les mots de ne pas mettre d'intensité, de ne pas presser, de ne pas faire les efforts nécessaires pour éviter de se faire marcher dessus, et ben en 6 jours, de se retrouver complètement transfiguré. Je pense que transformation, le mot est bien faible, hein, en tout cas sur ce qu'on a vu. Moi, je vois clairement une transfiguration, de voir les joueurs contre qui je pouvais pester pendant tous les matchs précédents. Là, contre Reims, je ne les ai pas reconnus, quoi. Et maintenant, après avoir vu justement ces vidéos présentatrices des intentions de jeu de Eric Horneland, je comprends un peu mieux maintenant ce qu'il a essayé de mettre en place. Mais avoir réussi à le faire en si peu de temps, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Je trouve ça incroyable. J'espère maintenant, évidemment, que ce ne sera pas un feu de paille. Mais en tout cas, les promesses affichées donnent envie. Et effectivement, maintenant, ça devient plus concret pour nous de voir ce que souhaite faire Kilmer. On en reparlera plus tard, mais il faudra donner, je pense, les moyens à l'entraîneur de pouvoir assouvir ses ambitions. Mais en tout cas, le début, en tout cas, donne envie. Je ne veux pas dire fait rêver, mais presque donne envie de voir la suite. Et j'ai hâte de voir la suite.
Oui, c'est vrai qu'on, ça nous a mis l'eau à la bouche un petit peu. On va revenir en détail là-dessus. Alors, les ambitions de Gazidis, de Kilmer, tout ça, elles ont été affichées dès le début. On a commencé quand même à avoir franchement du mal à y croire compte tenu de la première partie de saison. L'arrivée d'Horneland ne m'a pas rassuré de ce point de vue-là. Vraiment, je me suis dit, mais où ils sont, ils cherchent ce type, pourquoi? Et on vient de vous dire que, en fait, manifestement, c'était tout à fait réfléchi. Alors, il y a quelque chose qui a beaucoup été dit par Horneland, c'était que Saint-Étienne, c'est une place forte du football français, et donc il fallait une équipe qui ressemble au public, qui ressemble à la ville et qui soit ambitieuse. Les Rivels, est-ce que tu, lorsque tu vois les deux premiers matchs d'Ever Swarneland. Est-ce que tu te dis, ça, c'est une équipe qui va nous ressembler et c'est quelque chose qui peut vraiment prendre et c'est un style qui est adapté à Saint-Étienne?
Ah ben, en tous les cas, le match contre Reims, carrément, surtout que celui-là, j'étais au stade, donc c'était assez impressionnant de voir justement la transformation en fait de cette équipe. Après, il faut peut-être pas qu'on s'enflamme trop parce que pour l'instant il y a eu que deux matchs, mais en tous les cas, si ça continue en tous les cas comme ça. Avec ce qu'on a vu contre Reims, oui, bien sûr, elle ressemblera beaucoup plus à ce qu'on voulait, à ce qu'on a toujours voulu d'ailleurs à Saint-Étienne, que les équipes précédentes. Moi, je voulais revenir un tout petit peu sur Orneland là et ses tactiques.
Oui. On va faire une petite pause parce que y a un souci avec ton micro. Il faut que tu essayes de le régler.
Ah bon ? Okay.
Ouais, là, tu as la voix de Darth Vader, mais Darth Vader plutôt grippé. Et donc,
je vais
c'est compliqué. Je te laisse voir ça.
Ouais. Je reviens.
Je viens vers toi pour que tu complètes un peu la réponse de Verivel. On passe d'un match de Coupe de France absolument catastrophique, où on se retrouve à 10 en plus, mais où on est tous derrière dès la première seconde, à un discours d'Orneland qui, avant même le premier match, dit que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que Saint-Étienne, c'est un monument du football et il faut un jeu ambitieux pour emmener le public avec nous. Je parle à sa place pour emmener le public avec les joueurs, avec l'équipe, et qu'il est normal pour lui. Hein, il disait vraiment, c'est normal. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement d'aller de l'avant. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui te plaît et est-ce que tu penses que ça colle plus à l'histoire et à l'image des Verts?
Moi, je suis complètement enthousiasmé, en fait. Je n'ai pas envie de m'enflammer, mais en fait, j'ai envie de m'enflammer un petit peu aussi. Et je me suis creusé la cervelle, je n'ai jamais trouvé une telle transformation d'équipe en si peu de temps par un nouveau coach qui arrive. Bien sûr, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a le fameux choc psychologique où tu as un nouvel entraîneur qui arrive, un peu charismatique, un peu gueulard et qui remet un peu le vestiaire en ordre. Tu as les joueurs qui jouaient à...
Vincent Paoli, tu veux dire ?
Ouais, mais même l'exemple typique, c'est par exemple...
Je plaisantais parce qu'à Rennes, il fait un pied devant l'autre.
L'exemple typique qui me venait à l'esprit, c'est Claude Puel qui gagne le derby 3 jours après son arrivée, par exemple. Voilà, où tu avais des joueurs qui étaient à 70% avec le coach précédent. Voilà, il remet un petit peu d'or dans le vestiaire, les joueurs se donnent un peu plus et puis ça fonctionne. Mais là, c'est au-delà, quoi. Je ne pouvais pas imaginer que cette équipe, avec ce qu'elle nous a montré sur les premiers mois de compétition, les valises qu'on a prises un week-end sur deux, des joueurs qui ne mettaient pas un pied devant l'autre, et puis d'un coup, quelqu'un qui vient, qu'on connaît, qui vient de nulle part, qu'on ne connaît pas, et qui nous dit ben, « non, nous, on va jouer différemment, on va faire du pressing, etc. » Quasiment, ça, pour moi, c'était un peu le syndrome Ted Lasso, quoi. Tu vois, je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ce discours ?» Et en fait, non, le mec arrive et il te met tout ça en place, et ça fonctionne. Moi franchement, je suis bluffé. Alors bien évidemment, il faut espérer que ce ne soit pas qu'un feu de paille, mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans l'idée du bonhomme, dans la stratégie. J'ai l'impression que les joueurs répondent à ça, que j'ai l'impression que les joueurs ont même été un petit peu préparés à ça. Les joueurs qui ont été recrutés en amont, ils sont disponibles pour ce type de jeu-là. Et t'imagines si on arrive à proposer ce jeu-là de façon récurrente sur les mois qui viennent, avec le public derrière, ça peut faire un truc énorme, quoi.
C'est bien évident que ce jeu-là à Geoffroy Guichard, je pense que les mecs, ils gagnent 10% d'efficacité dans leur pressing. parce que je pense que le public va les porter quand ils vont presser haut, ça va être un truc de fou. Alors, tu as fait la liaison entre les deux premières parties, hein, dissidents, parce que la deuxième partie, j'avais mis du profil aux actes, mais on peut même dire des paroles aux actes, parce que ce discours d'Éric Orneland, dès qu'il est arrivé, eh bien, moi, je l'ai entendu, et franchement, je me suis dit, bon, voilà, c'est un discours de politicien, quoi. Et puis maintenant, on arrive dans le vif du sujet, les deux premières rencontres dont on va parler précisément ensemble. Avant ça, Berivel.
Oui, non, je voulais juste rajouter, et je ne sais pas si maintenant on m'entend bien.
On t'entend bien. Oui.
Eh ben, c'est parfait. Donc, je voulais juste rajouter quel dommage quand même de ne pas avoir eu les COP là, contre Reims, hein, parce que ça aurait été vraiment grandiose. Vu le match qui a été proposé, honnêtement, avec en plus le scénario de se prendre un pauvre but sur une même demi-action, là, demi-occasion avant la mi-temps, pour après complètement renverser le match. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu les COP ce jour-là.
C'est certain. Alors, Pat, je vais me tourner vers toi. Arrivée d'Éric Orneland avec de nouvelles idées. Des choix tactiques radicalement nouveaux par rapport à ce qui nous était proposé auparavant. Je rappelle que quand on a levé la main, il faut la baisser. On a déjà effleuré la question. Des choix tactiques radicalement nouveaux avec ce pressing très haut, avec aussi dans le replacement défensif des choses nouvelles proposées. Une organisation nouvelle avec le 4-3-3, mais là où ça a surpris tout le monde, Pat, tu vas nous faire part de ta surprise, comme les autres, je pense, c'est qu'on a eu un jeu collectif relativement bien huilé, une équipe bien organisée, alors qu'ils avaient eu 5 jours de travail collectif et que tout avait été remis à plat et qu'il fallait qu'ils apprennent un schéma tactique totalement différent de celui auquel ils étaient habitués. On est tous, je crois, tomber sur les fesses.
Oui, je crois que c'est vraiment ça qui, pour moi, est le plus dingue, quand même, parce que Éric Orneland est arrivé, je crois, la veille du match contre Marseille, donc où il a pu assister au naufrage, comme nous, dans les gradins, et il a eu, du coup, une petite trêve derrière et une petite reprise de 5 jours pour pouvoir monter son équipe. Et donc 5 jours, c'est rien, quoi. Surtout quand tu viens de passer 6 mois affreux, tu dis remettre les têtes à l'endroit en 5 jours, c'est compliqué. Moi, j'avoue, en plus, quand j'ai vu la composition de départ avant le début du match contre Reims, je me suis dit bon, on repart exactement avec les mêmes. Il y a quasiment aucun changement. Donc bon, ça, on va dire qu'il va essayer de gérer la pénurie, qu'il va essayer de faire au mieux, de commencer à imposer son système de jeu, et puis on verra ce que ça donne. Et franchement, quand j'ai vu ce début de match, j'ai vu mes momies quasiment en train de presser comme s'ils étaient redevenus des gaillards de 20 ans, là, dans tous les coins du terrain, et puis de presser d'une part de manière intense, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'intensité, de bousculer l'adversaire, le faire reculer, mais en plus de le faire d'une manière hyper intelligente. Intelligente à un point que même moi j'ai eu du mal à comprendre comment ça pouvait fonctionner, mais en fait quand on regarde et qu'on prend le temps d'analyser le placement des joueurs, les déplacements en fonction des phases offensives et défensives, on comprend l'idée derrière, mais c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir réussi à inculquer ça en 5 jours aux joueurs, avec des déplacements qui étaient déjà tous coordonnés parfaitement, démontés, que ce soit de Boakye ou de Cafaro, justement sur les deux arrières centraux, les déplacements de Stassin qui arrive toujours à suivre le bon milieu de terrain justement pour empêcher la relance courte, les déplacements ensuite des milieux Bouchoirie et j'ai oublié le deuxième, qui vont aller couvrir les arrières latéraux justement pour les empêcher de relancer. Enfin, c'est quelque chose, moi ça m'a paru hyper compliqué quand j'ai vu l'analyse, et en fait c'est quelque chose qui maîtrise déjà, je ne vais pas dire parfaitement, mais déjà très très bien.
Louis Mouton, le deuxième milieu.
Louis Mouton, exactement, voilà, ouais. Tout à fait. Qui, lui aussi, pour le coup, on peut parler d'une transfiguration par rapport à ses 2-3 matchs précédents. Moi, j'étais vraiment, vraiment bluffé par ce système-là. Et surtout de se dire, comment Ces joueurs qui étaient si amorphes sous Olivier Dalloglio, on peut retrouver un éclat pareil avec Eric Cornelande. D'ailleurs, je me suis posé quand même beaucoup de questions sur les réelles intentions des joueurs sous Olivier Dalloglio. Pourtant, ça avait l'air quand même de.
Il y a toujours cette question-là, effectivement. Mais Louis, c'est un garçon qui depuis toujours montre un beau potentiel. Mais là, il a l'air d'être bien dans ce système. Et s'il continue comme ça, il va se rapprocher du niveau de Madi Camara.
C'est un système, en tout cas, qui le met en valeur complètement. Parce que ça met en valeur vraiment ses qualités d'abnégation, de pressing.
Tu disais qu'on maîtrisait très bien déjà les choses, etc. Alors, ce qui est encore plus encourageant, c'est que Hollande a dit « Vous avez fait des choses très bien, puis à d'autres moments, vous avez été nuls. Hein. » Vraiment, on a été complètement nuls. Donc, il n'est pas totalement satisfait, évidemment. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est l'intensité de début de match, c'est étouffer l'adversaire, mais tout le temps sans laisser de répit. Alors, ça promet des rencontres un peu épiques, je suppose. Il va y avoir une phase où les adversaires vont s'adapter et ça va être moins simple, à mon avis. Tout ça, ça va être intéressant à suivre, mais on espère que ça sera avec des résultats, puisqu'on en a besoin. Alors, Verivel, il y a autre chose qui m'a frappé. Je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti. Avec toutes ces nouvelles idées d'Eric Hornelande, j'ai trouvé que les joueurs adhéraient très vite à son discours. Parce que franchement, changer les choses autant que ça, demander de faire autant d'efforts, il pourrait y avoir un peu plus de réticence que ça. Moi, j'ai trouvé des joueurs 100% impliqués. Est-ce que tu as eu le même sentiment? Est-ce que tu as l'impression que son discours, sa philosophie de jeu passe très, très bien dans le groupe?
Oui, forcément, puisque les matchs ont été très convaincants. Donc, il faut une adhérence quand même totale au système pour parce que c'est pas évident. Hein. Franchement, je pense que ce système-là, il est quand même beaucoup plus compliqué que le système qu'on avait avant, qui était de tous derrière et puis on balance des grands ballons. Je veux dire, au niveau foot, il y a quand même ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'intelligence de jeu également. Et de prendre plus de risques, donc c'est quand même pas simple, et pourtant les joueurs l'ont fait. Alors moi, ça me fait un petit regret aussi, parce que je me dis quand même, avec cette équipe, on a perdu un temps fou, quoi. Du coup, on a perdu un temps fou à se mettre tous derrière là, à faire un 5-4-1, et quand je regarde l'arrivée de Hornelande, je me suis juste demandé, mais qui a réussi ces derniers temps en tant qu'entraîneur en Ligue 1, qui ont fait des belles choses? Ben, c'est pas ceux qui sont arrivés en faisant un 5-4-1 et en balançant des ballons sur Sissoko en espérant qu'il le récupère, quoi. Donc c'est ça aussi que moi je me dis, on a quand même perdu un petit peu de temps là, parce que cette équipe elle est capable de beaucoup mieux, et on l'a vu là sur deux matchs. Alors il faut peut-être pas s'enflammer, mais quand même on a vu des choses. Quel dommage, quoi, du coup, quelque part.
Oui. Alors, on peut avoir ce regret, effectivement. On se pose la question, est-ce que Olivier Dalloglio était la bonne personne en début de saison? Mais objectivement, c'était une décision qui aurait été difficile à prendre, je pense qu'aurait été mal comprise s'il avait été remplacé à ce moment-là. Alors,
Je veux juste rajouter, les derniers entraîneurs qui ont vraiment réussi, enfin en tous les cas qui ont fait l'effet d'Hornelande, c'est, moi j'ai pensé à Frank Hayes par exemple à Lens, là quand il est arrivé, il a tout changé, et aussi on peut citer Will Steele hein, par exemple à Reims, hein, notamment qui avait transformé aussi son équipe. C'est ce que je disais, ils sont pas arrivés avec la volonté de bétonner et de rien faire sur le terrain. Donc c'est quand même agréable d'avoir aussi un entraîneur qui pense comme ça, quoi. Voilà.
Oui, tu proposes des comparaisons qui ont tout leur sens, à mon avis. Et effectivement, dans les deux cas que tu as cités, il y avait une ambition certaine au niveau du jeu. Bah, parlons un peu des matchs forcément différents, puisque une fois Reims, une fois Paris, ce n'est pas le même calibre. Dissident, pardon, je viens vers toi maintenant. Est-ce que ce match qu'on peut qualifier d'abouti contre Reims, bah, tu vas nous dire si tu le trouves abouti, où on est mené de manière totalement improbable et injuste à la pause, est-ce qu'il faut quand même modérer notre enthousiasme du fait d'une faiblesse de l'équipe adverse, ou est-ce que tu penses que c'est le pressing des Verts, que c'est l'intensité des Verts qui ont donné le sentiment que les Rémois étaient d'un niveau très modeste?
Ben, oui, moi je pense que les Rémois, ils sont arrivés à Geoffroy Guichard sans s'attendre vraiment à ce qu'il allait leur tomber au coin de la tête, quoi. Parce que vu ce qu'on avait proposé depuis le début de la saison, c'est sûr que ça a dû leur faire tout drôle sur le terrain. Mais alors c'est vrai qu'ils avaient un de leurs meilleurs joueurs en partance et qui n'avait pas été aligné. Ça a pu un peu perturber leur défense centrale. Mais hormis ça, moi je trouve que on doit pas dénigrer la performance qu'on a fournie contre Reims. On a largement mérité notre victoire. On a été beaucoup plus fort qu'eux. Et ce qui est incroyable, c'est que comme on disait avant, c'est cette transformation, cette transfiguration, y compris d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé de pressing, d'intensité, etc. Moi, j'ai aussi noté les circuits de passe où d'un coup, on se retrouve avec nos momies, comme disait très bien Pat. Qui se sont transformés en virtuoses techniques à faire des circuits de passe à 3, des remontées en 1-2 qu'on ne voyait plus. Je pense qu'on a largement mérité notre victoire. Ce jour-là, on était vraiment dans la première moitié de la Ligue 1, largement, quoi. Donc, non, je vais pas aller sur ce versant-là, sur le fait que Reims était pas très bon. Je pense qu'on a vraiment été très, très fort.
C'est bien de voir les choses comme ça, et effectivement, même si c'est difficile d'imaginer qu'on puisse étouffer toutes les équipes de la même manière, c'est une évidence. Alors, on a des joueurs qui ont, enfin moi ça m'a frappé, Pat, tu vas dire si tu es d'accord avec ça, qui ont adhéré au discours tout de suite, et des joueurs qui non seulement ont adhéré au discours, mais ont été très bons dans leur rôle pour certains, bons pour d'autres, excellents peut-être pour certains. Est-ce que tu ressortirais un nom à l'issue des deux dernières rencontres, est-ce que tu ressortirais un nom de l'effectif stéphanois qui, selon toi, se serait pleinement saisi de cette nouvelle organisation et donnerait son plein potentiel?
Alors, j'aimerais même en sortir deux, mais le premier qui me saute aux yeux, et je pense qu'il a sauté aux yeux de tout le monde, c'est évidemment Benjamin Bouchouari, qui déjà, sous Dalloglio, avait commencé à montrer des signes très encourageants d'évolution de son jeu, en prenant en compte les tâches défensives, et puis se lâcher un peu dans les remontées de balles, et qui permettait justement quand même d'apporter quelque chose au jeu dans le marasme qu'on pouvait connaître. Mais là, dans le rôle que Horneland lui a donné, c'est juste incroyable. Il se bat sur tous les ballons, il en récupère un paquet. À chaque fois qu'il récupère un ballon, sa seule obsession, c'est de se retourner, de se mettre face au jeu et de tout de suite accélérer le jeu pour repartir vers l'avant, soit en faisant un ou deux crochets, en accélérant, soit en donnant directement une passe devant. Enfin, ce nouveau jeu-là lui correspond totalement, et son talent là du coup éclate au grand jour. On le voyait, on le distinguait, on l'espérait le voir poindre plus souvent, mais là il éclate au grand jour, quoi. C'est un rôle qui lui convient parfaitement, Et moi, je suis enchanté de voir Benjamin Wuchory enfin donner le plein potentiel de lui-même, se lâcher, être heureux sur le terrain, se faire plaisir et nous faire plaisir par la même occasion. C'est super encourageant. Il lui manque encore un peu de travail sur la qualité de la dernière passe pour être vraiment en plus totalement décisif. Mais ce qui nous montre là, c'est ça fait rêver, ça donne envie, quoi. C'est des choses qu'on voyait plus, quoi, dans les équipes qu'on a pu suivre sur les 4-5 dernières années. J'ai pas un joueur que j'arrive à me rappeler qui avait les mêmes capacités de remonter de balles rapides et de nous réorienter dans le bon sens du jeu. Et je pense qu'il a tout pour vraiment exploser et s'éclater avec Eric Horneland dans son système de jeu. C'est vraiment encourageant. Le deuxième que j'ai envie de valoriser ensuite, mais je laisserai peut-être la parole à quelqu'un d'autre pour en parler, c'est Stassin, que je trouve a super bien assimilé le concept justement demandé par Horneland, et qui, d'une part, défensivement, fait les bons déplacements, les bons efforts et permet la récupération haute du ballon. Et en plus, du fait de cette projection rapide vers l'avant, et en plus, et ça, je pense que c'est le plus important, du soutien qui bénéficie désormais avec les ailiers qui sont beaucoup plus hauts sur le terrain pour une vraie ligne de 3 offensive, et ben lui permettre de se lâcher aussi, d'avoir des espaces et de pouvoir montrer son talent. Et je pense qu'on peut assister à la naissance de Stassin sur cette deuxième partie de saison et le voir marquer enfin les buts qu'on attendait de lui sur la première partie.
Oui, Stassin a pour lui d'avoir un gros moteur et il a vraiment une excellente condition. Il est capable de courir beaucoup, longtemps, à haute intensité. Et évidemment, ça va bien pour ce que préconise Eric Horneland. Alors, Stassin et Wuchory, on va en parler dans la dernière partie de l'émission sur le mercato parce que, justement, compte tenu de leur importance, on va discuter un petit peu, savoir s'il y a des solutions de rechange. Et si la conclusion, c'est qu'il n'y en a pas, ben, est-ce qu'il ne faut pas faire une priorité de doubler ces postes-là? Alors, on va parler un petit peu de Paris également. Donc, Verivel, un match au Parc où c'est vrai qu'on en aurait probablement pris 6-7, c'est triste à dire, mais quasiment comme une fatalité avant l'arrivée d'Horneland. Et là, on commence le match au Parc. Et on effectue le même pressing, mêmes intentions de jeu, et sauf, enfin, si justement Stassin n'avait pas gâché un peu une passe facile à faire pour David Ashvili, on aurait pu tout à fait normalement mener au score au bout de 5 minutes.
Oui, et je pense que Paris, ils ont fait comme Reims, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que ça allait être facile, et ils se sont fait surprendre au début du match. Alors, Paris n'étant pas Reims, ils ont réussi quand même à nous taper. Bon, ça, il faut bien le dire. Mais effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on avait peur, c'était vraiment de sombrer et de prendre une énième valise, on va dire, par rapport à cette année. Et finalement, eh bien, comme les commentateurs disaient, à la 85e, on était encore en vie, quoi. Et même à la 90e, on était encore en vie. On aurait pu égaliser, même si on n'a pas eu beaucoup de grosses occasions là dans les dernières minutes, c'est dommage. Mais oui, ce match, bon, on savait qu'on… Enfin,
on t'entend très mal, il y a beaucoup de bruit derrière.
Derrière moi?
Ouais.
Non, alors ça vient pas de chez moi, je pense. Ça vient de chez Patrick.
Ah, peut-être.
D'accord. Ouais, tu devais. Donc,
Pat qui n'avait pas éteint son micro, pardon. Ok, vas-y.
Voilà, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que oui, on était encore en vie donc, dans les dernières minutes. Et ce qu'on avait peur, c'était vraiment de sombrer. Et bien, finalement, on n'a pas sombré. De toute façon, on n'attendait pas de prendre des points sur ce match. Donc, c'est pas très grave. On a pu encore voir, et je pense que les joueurs ont encore travaillé le système prôné par Horneland. C'est un match qu'on a perdu, mais c'est quand même un match plein d'espoir. C'est quand même un match qui nous fait presque rêver autant que celui de autant que celui de Reims. Donc, pour moi, c'est positif, même si au classement, ça nous a quand même pas fait avancer, quoi. Voilà.
Non, effectivement, positif. Alors, positif relativement à ce qu'on a connu dans la première partie de saison, oui, ça reste une défaite. Avec une défaite méritée, les Parisiens ont eu plus d'occasions, mais avec un hold-up qui n'était pas si loin. Mais en tous les cas, c'est une confirmation par rapport aux intentions de jeu. Alors moi, je trouve que dans cette rencontre au Parc, il y a eu des confirmations et il y a eu un perdant. Pour moi, il y a eu un perdant dans cette rencontre, un joueur qui n'a pas monté qu'il était capable d'être efficace dans ce système. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'a pas montré qu'il n'était pas capable ? Ce qui, évidemment, est pire. Avant de venir vers toi, dissident, pour en parler, Verivel.
Oui, juste pour donner des nouvelles du chat sur YouTube, il y a Franck qui, lui aussi, est d'accord avec nous sur Bouchouarie, là, sur, quand tu parlais des joueurs qui ont explosé la suite à l'arrivée de Horneland. Et il cite aussi Nadé. C'est vrai que Nadé, contre Reims, sa montée spectaculaire nous a fait revenir dans la partie. Et voilà, lui, il cite donc Bouchouari et Nadé.
Oui, alors Mika qui a fait une montée, une chevauchée fantastique à la Osvaldo Piazza, hein, c'était fabuleux, pour ensuite délivrer un centre. Alors nous, on a une équipe qui centre mal, on est nul. Et là, il a mis un centre parfait au deuxième poteau. Donc, dissident, je reviens vers toi, toujours pour Paris. On a parlé de joueurs qui vraiment avaient affirmé leur capacité à parfaitement s'intégrer dans ce système, avec par exemple Benjamin Bouchouari, Louis Mouton, Pierre Écouas, qui, on n'a pas encore parlé de lui, mais à mon avis, qui a fait ses deux meilleurs matchs en vert depuis qu'Horneland est arrivé, un super Écouas. Et puis pour moi, il y a un perdant. Alors, je ne dis pas son nom parce que je voudrais savoir si tu as l'impression qu'il y a un perdant dans le 11 aligné au Parc dissident. Ou est-ce que rien ne t'a frappé de ce point de vue-là?
C'est une super question piège là, que tu me poses. Ah, écoute,
non, parce que moi, c'était relativement évident.
Pour toi, c'est évident.
Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le match, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Hein.
Pour moi, celui qui a montré le plus de limites, en tout cas sur ce match-là, mais avec toutes les circonstances atténuantes qu'il pourrait avoir, ce serait peut-être Léo Petro, parce que je l'ai trouvé en difficulté, malgré toutes ses qualités, ses valeurs qu'on connaît bien. Je pense que dans le système Horneland, qui va quand même demander beaucoup, beaucoup d'efforts de la part des latéraux, beaucoup de prises de risque aussi avec des espaces qui peuvent se créer un petit peu et des contres rapides des adversaires. Je dirais que c'est quand même celui qui a été le plus en difficulté de l'équipe. Le deuxième point, tu me diras si c'est à Léo Petro que tu pensais ou si c'était à d'autres. Le deuxième point, on n'a pas été forcément très très efficace, c'est les ailiers, aussi bien Cafaro qui a été sorti à la pause. Je pense que c'était un choix tactique, que Davitashvili, qui hormis son but n'a pas vraiment beaucoup apporté, alors que pourtant il y avait des situations qui auraient dû lui permettre de mettre en évidence ses qualités de vitesse. Voilà, je pense que ça nécessite pas mal de travail encore et d'amélioration. C'est peut-être ce que Horneland dit quand il dit qu'il veut encore plus. Il y a effectivement du boulot, je pense, sur les côtés, l'animation des côtés, notamment sur le plan offensif.
Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses. Alors, moi, je ne pensais pas à Léo Petro. Léo Petro, il s'est retrouvé avec la meilleure doublette ailier latéral en l'occurrence du championnat. Alors, c'est vrai, avec Dembélé et Hakimi, c'était très très dur. Et il a été en difficulté à plusieurs moments, mais Il n'a pas totalement sombré, il a continué à s'accrocher. Enfin bon, on connaît toutes ses qualités immenses, ses limites aussi, elles existent. Ce n'est pas lui que je pensais, c'est le deuxième que tu as cité. Pour moi, c'était Mathieu Cafaro que j'ai trouvé pas du tout performant dans le pressing collectif, manquant d'impact, en retard. Et franchement, je n'ai pas attendu qu'il soit sorti pour le dire. Et j'avais même anticipé, je me suis dit, mais il va finir par le sortir parce que je le trouvais à côté de ses pompes. Quant à Zurico, ça fait un petit moment qu'il est moins performant et il va falloir qu'il soit capable, effectivement, de faire tout ce travail de déplacement collectif les uns par rapport aux autres. Autrement dit, je crois qu'il va falloir qu'il progresse tactiquement et en termes de discipline collective, parce que le pressing haut, c'est très bien, mais il suffit qu'il y en ait un qui soit en retard pour que la sortie de balle soit possible et que toute l'équipe soit prise dans le dos. Pat, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, moi, celui auquel je pensais que tu pensais, c'était justement Zurico Davitashvili. J'ai trouvé que dans le système de jeu d'Arnoland, justement, sur cette première mi-temps, c'était le seul de l'équipe qui était à contre-temps. Et je pense, il était. Alors peut-être dans le pressing, il faudrait que je revoie le match exactement pour voir s'il était vraiment, mais autant qu'on peut reprocher à Cafaro ce que tu as dit tout à l'heure, mais pour le coup, moi je l'ai trouvé très juste justement dans son pressing, le replacement, le jeu sans ballon, etc. Et au final, le jeu a quand même pas mal penché à droite sur cette première mi-temps. Il a touché, je crois, pratiquement deux fois plus de ballons que Davitashvili sur cette première mi-temps. Zurico, son gros problème pour moi, c'est son côté beaucoup trop individualiste qui sur cette première mi-temps non seulement nous a fait probablement rater quelques situations parce qu'il a une propension à trop garder le ballon, et surtout je pense que défensivement dans le replacement, il était à contre-temps de ses partenaires, et si Léo Petro a été si en difficulté face à la doublette magique dont tu as parlé juste avant, c'est peut-être bien juste aussi parce que Zurico Davitashvili faisait peut-être pas autant d'efforts défensifs que pouvait faire Cafaro pour revenir, et on était je pense sur ce un peu déséquilibré sur ce point-là. Et pour moi,
les deux ont été insuffisants dans leur soutien aux latéraux, et tu fais très bien de signaler que Léo s'est souvent retrouvé seul, ce qui évidemment est extrêmement difficile quand on est face à une telle opposition.
Oui, voilà, c'est pour. Mais ça me paraissait beaucoup plus flagrant justement pour ma part, en tout cas, sur Zurico, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est vrai que il va falloir, je pense, qu'il se mette très vite au diapason de ce que lui demande Horneland, parce que je pense que ce qu'il a fait sur cette première mi-temps au Parc pourrait lui coûter cher à l'avenir. Il a de la chance de ne pas avoir de concurrence vraiment sur son côté. Si jamais il venait à y avoir un autre joueur qui serait au niveau pour le concurrencer, ça pourrait le mettre en danger.
Oui, alors sur les côtés, en tous les cas, je rejoins ce qu'a dit Dissident, c'est-à-dire qu'au Parc, c'est certainement là, côté. En tous les cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu les choses, côté Cafaro et côté Davitashvili, qu'on a été un peu en retrait. Alors, c'était face à une grosse opposition, je le répète, c'est un système qui est nouveau, donc il ne s'agit pas de condamner les gens, mais. Moi, je suis plus inquiet pour Cafaro pour l'instant sur sa capacité à défendre, parce qu'il ne nous a jamais montré qu'il avait une grosse capacité à défendre. Quand il fait des efforts régulièrement, il fait des fautes grossières de frustration, il s'énerve sans raison. Donc voilà, je suis un peu inquiet pour Cafaro. Alors. On va attaquer la dernière partie de l'émission sur le mercato. J'ai appelé ça Waterloo Morne Plaine parce que on pensait que ça allait bouger très vite et puis ça ne bouge pas. Avant qu'on parle des arrivées, des départs, Dissident, petite question pour toi. J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce que ta vision de ton appréciation de la qualité du groupe a-t-elle changé à l'issue des deux derniers matchs? C'est-à-dire que, je précise, dans la dernière émission, on a dit que vraiment, on avait un groupe qui était limité en qualité. Enfin, voilà, c'était très faiblard pour la Ligue 1. Est-ce que tu as toujours ce sentiment? Ou est-ce qu'il y a des joueurs qui ont envoyé un tel message que tu te dis peut-être que ils ont un potentiel supérieur à ce que j'imaginais?
Bah, évidemment, ma réponse est oui. On ne peut pas parler de transfiguration sans avouer que finalement, bah, les joueurs qu'on pensait limités, perdus, bons à être transférés à un club de bas de tableau de National, bah, tout d'un coup, on change notre fusil d'épaule. Je rappelle en fait qu'on vivait dans une sorte de sinistrose qui était un petit peu orchestré finalement par Dalloglio, même si avec tout le respect que je dois évidemment au coach, il faut quand même rappeler que ça faisait plusieurs semaines qu'il nous expliquait à chaque interview que la seule possibilité, ce serait que le Papa Noël vienne apporter au club des recrues, qu'il fallait des renforts, etc. On était un peu dans cet état d'esprit-là. Arrive Orneland, transforme des joueurs, évidemment, ça rebat toutes les cartes. Aujourd'hui, néanmoins, on va en parler, mais je pense qu'il y a quand même besoin de se renforcer. Je n'ose imaginer, dans la stratégie Kilmer, de toute façon, un mercato sans action, parce que je pense que dans la politique Kilmer de développer des joueurs, ben, nécessairement, ça passe par être actif à chaque mercato, aussi bien dans les côtés arrivés que côté départ. Mais finalement, ce qui s'est passé sur ces deux premières semaines de janvier, c'est que on est moins dans la précipitation et on peut tout à fait imaginer, en tout cas, Kilmer peut nous faire penser qu'ils gèrent le truc, quoi, qu'ils ne sont pas dans l'urgence, qu'ils ont leur cible, qu'ils savent exactement où ils vont et ce qu'ils ont fait avec Orneland. Ils vont le faire avec des joueurs qui vont arriver et qui vont avoir été choisis vraiment pour pouvoir s'intégrer dans ce système-là et pour pouvoir être performant tout de suite et pour pouvoir nous aider à passer un cap. Donc je dirais que au 1er janvier, à l'ouverture du mercato, j'étais hyper impatient qu'on ait des recrues et que vite on ait ces annonces-là. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ben, je regarde beaucoup moins le fil actu du mercato, des transferts. Je suis beaucoup moins inquiet. Je me dis que ça va arriver quand ça doit arriver et qu'on est bien géré, quoi. Voilà. Encore une fois, j'ai vraiment envie de m'enflammer après tous ces mois de tristesse qu'on a vécu. J'avoue que je profite un petit peu.
Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on devrait échapper à une interview en mode Kadhafi par Skype avec des journalistes égyptiens suite à un transfert raté de Mustapha Mohamed. C'est ça que tu nous dis là?
On peut espérer ne jamais revenir en arrière, effectivement.
Oui, alors effectivement, en fait, c'est vrai que c'est un point que j'ai mis dans le conducteur. Comment expliquer ce peu d'empressement à recruter et à dégraisser? Bah, tu viens un peu quand même de répondre à la question. C'est peut-être juste parce qu'on a une direction qui a du sang-froid, qui ne souhaite pas se précipiter et qui veut le bon profil au bon moment, peut-être au bon prix aussi. Et bon, on va voir ce que ça donne. Verivel, je viens vers toi un moment, parce que justement, dans cette histoire de bon profil, il y a un nom qui revient avec insistance. On nous dit que c'est fait, que c'est presque fait, que ça va être fait, qu'il est là, qu'il est presque là, qu'il va bientôt atterrir. C'est Ivan Cardona. Et moi, j'aimerais avoir ton sentiment. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire revenir Cardona à Saint-Té après ses exploits de la saison dernière?
Oui, moi j'aime bien Irvin, donc bien sûr, je pense que c'est une bonne idée. Surtout, je pense que c'est un profil qu'on recherche. Hein. On vient de faire le constat là de ce qui allait pas. Si on avait Cardona en plus, est-ce que ça nous donnerait pas une cartouche très intéressante supplémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire là dans le dernier quart d'heure? Moi, je pense que oui. Bien sûr, alors après, ça peut être Cardona, on le connaît, etc., mais c'est comme quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, quelqu'un de son profil, bien sûr, je suis carrément, carrément preneur, moi, de ce type de joueur. En plus, Irvine, on sait ce qu'il sait faire, on sait ce qu'il est capable de faire, et moi, je signerais bien, ouais.
Tu m'as eu, j'étais en train de répondre dans le chat et il m'a fallu du temps pour rouvrir mon micro. Alors, je vais venir vers toi après, Pat, parce que moi, je suis peut-être un peu plus réservé que Verival. Tu vas nous départager. Dissident, d'abord, avec une réaction sur le forum.
Oui, il y a Marie Verte qui nous rappelle que le groupe conserve des limites et que pour lui, une des priorités, c'est qu'on a des latéraux trop lents pour la Ligue 1 et que donc il va falloir certainement recruter. On en parlera après à ce poste. Il rajoute aussi que il est d'accord avec nous sur le fait que Zurico Davitashvili n'a pas été Orneland compatible sur le match au Parc.
D'accord.
Sur le chat YouTube aussi, il parle des latéraux. Hein, donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Là. Voilà.
Oui, alors, je réagis rapidement sur ce qu'a dit Marée Verte sur le forum. Pour moi, Denis Sapia, il n'est pas lent. Et il a été pris dans son dos par Barcola, qui est hyper rapide. Et il était en 1 contre 1, justement parce que nos deux joueurs de couloir n'ont pas été très, très bons. Je suis réservé. Après, Léo, on sait que la vitesse, ce n'est pas sa force. Pat, au sujet d'Irvine Cardona, moi, je me pose la question, est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que je n'ai pas oublié qu'Irvine, ce n'est pas qu'il a été moyen, c'est qu'il a été franchement mauvais au début, lors de ses premières prestations, y compris le match qui débloque tout, où il est mauvais avant de marquer. J'ai oublié contre qui c'était, zut.
À Angers, merci.
Et après, il a tellement marché sur l'eau, avec évidemment en point d'orgue son double chef-d'œuvre face à Bordeaux, c'est un truc de fou. En point d'orgue, ce double chef-d'œuvre, il a tellement marché sur l'eau que je me pose la question quand même de savoir si il n'était pas en sur-régime. Alors Pat, qu'est-ce que tu en penses du retour de Cardona ? Est-ce que j'ai tort de m'en faire ? Ou est-ce que tu es comme Verivel, tu as envie qu'il revienne sans réserve ? Ou est-ce que tu as quelques interrogations ?
C'est difficile cette question. Moi en fait, j'avais pas envie qu'il parte. Clairement, son départ, moi je l'ai très mal vécu. Avec la fin de saison qu'il fait avec nous, il nous porte vers la Ligue 1. C'est un ancien joueur de Ligue 1 qui nous avait notamment fait beaucoup de mal quand on l'avait affronté quand il était à Brest. Pour moi, c'était un joueur qu'il fallait à tout prix conserver. Et j'ai vraiment mal vécu son départ. Donc forcément, entendre l'idée qu'il puisse revenir, moi, ça m'enchante. En tout cas, sur le papier, ça m'enchante. Maintenant, je rejoins un peu tes réserves, parce que il est parti. On peut pas dire que pour l'instant, il fasse des étincelles à l'Espagnol de Barcelone. Il commence tout juste un peu à trouver le chemin des filets. Ça a été très long au début, il jouait pas forcément. Donc on va retrouver un Cardona pratiquement dans la même situation, peut-être en exagérant un peu quand même, parce que c'est quand même un peu mieux, mais dans la même situation où il était quand il est arrivé chez nous, c'est-à-dire en manque de temps de jeu, en manque de repères, en manque de confiance, et il faudra un peu de temps pour qu'il s'habitue et se remette dans l'équipe. Et du coup, par contre, là, on n'est plus en Ligue 2, on est en Ligue 1, donc il faudra quand même un niveau de jeu plus élevé. Donc forcément, il y a des doutes. Il y a des interrogations sur sa capacité à se réimposer une deuxième fois. Et puis, j'ai toujours en mémoire quelques échecs de retour de certains joueurs qui sont venus, qui sont repartis, qui sont revenus. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. En tout cas, ça ne me saute pas aux yeux là en ce moment. Je suis en train de réfléchir, mais j'en ai pas qui me viennent à l'esprit de joueurs qui sont revenus une deuxième fois et qui ont aussi bien marché que la première fois où ils étaient avec nous. Donc, l'hype, moi, j'ai envie d'y croire. S'il signe, je serai content et j'en attendrai beaucoup, mais j'ai peur d'être déçu, un peu comme toi. Donc, on verra bien. Voilà. Mais en tout cas, si on replace le jeu de Cardona qu'on a pu voir dans le contexte Horneland compatible, pour reprendre l'expression de Marée Verte, ça peut marcher. Clairement, c'est un joueur qui peut justement être totalement Horneland compatible et qui pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe et justement apporter cette fameuse concurrence dont je parlais précédemment, que ce soit surtout auprès de Mathieu Cafaro, parce que c'est lui le premier qui risque de sauter dans ce cas-là, mais pourquoi pas Zurico Davitashvili également et le remettre un peu sous pression.
Oui, et là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il a le coffre pour pouvoir participer à ce pressing. Irvine Cardona, sur le plan athlétique, il a des qualités qui ressemblent un peu à celles de Stassin, je trouve. Et après, il faut voir s'il a la maturité tactique pour pouvoir s'intégrer dans ce schéma, parce que on l'a dit, hein, c'est de la mécanique de haute précision, hein, le moindre retard, ça met toute l'équipe en difficulté. Petite réaction sur Twitter de Patavo. Alors, j'avais un peu oublié d'aller voir sur Twitter, je m'excuse auprès de lui, et il est d'accord avec Dissident sur le fait que KSV prend son temps afin de bien choisir les renforts. Il ne s'agit pas de prendre pour prendre. Alors justement, les profils, on en a un petit peu parlé. Moi, je vous disais avant l'émission, là, je voulais vous interroger là-dessus. Dissident, tu vas nous dire ce que tu en penses au sujet du poste d'avant-centre. Sissoko, est-ce que tu… Alors, on n'est pas devin, mais on peut quand même, on le connaît, on l'a vu évoluer, on connaît ses qualités, ses limites, etc. Est-ce que tu as le sentiment que Sissoko peut jouer le rôle de Stassin, ce rôle quand même très précis, qui demande beaucoup de mobilité pour aller prendre quasiment un individuel sur les phases défensives, le milieu, là, sur les sorties de balles adverses, le milieu qui est côté ballon. Est-ce que tu as l'impression que… Est-ce que tu y crois à Sissoko dans ce système?
Non. Non, autant Sissoko, il a pu nous être très précieux sur la première partie de saison quand on jouait bloc bas, long ballon devant. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a été un peu sous-utilisé par Dalloglio, qui, sur certains matchs, a préféré titulariser Stassin de façon un peu bizarre. Mais bon, en même temps, il fallait bien aussi donner du temps de jeu à Stassin. Mais je pense que Sissoko, il nous a apporté ce qu'il a pu nous apporter sur la première partie de saison. Il faut rappeler quand même qu'il nous a sauvé quelques points. Il a marqué des buts importants. Là, pour répondre directement à ta question, j'ai du mal à l'imaginer faire le travail qu'a fait Stassin au Parc des Princes, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit du tout le même profil. Et pour faire le lien avec la question sur Cardona, et t'en as un petit peu parlé, Osvaldo, moi, je me demande aussi si Cardona revient, s'il ne peut pas aussi postuler de temps en temps à relayer un peu Stassin, parce qu'il a un profil effectivement qui ressemble un petit peu. J'ai le souvenir d'avoir vu Stassin au Parc des Princes de temps en temps se retrouver un peu sur les côtés, de temps en temps bien sûr au centre, alterner avec Davitashvili. Et je me dis que ça, pour le coup, c'est un profil, une zone de terrain qui pourrait pas mal plaire à Cardona. En tout cas, on sait qu'il est capable de le faire. Il l'a fait la saison dernière chez nous. Donc, je dirais que finalement, la rumeur Cardona, pour moi, elle va peut-être aussi dans le sens qu'on se rend compte que Stassin, il est un peu tout seul devant dans son rôle et qu'il faudrait peut-être trouver quelqu'un pour l'épauler.
Oui, à nouveau, je fais part d'une réaction sur Twitter, Patavo, qui est d'accord avec toi et qui ajoute, on ne l'a pas oublié, le fait que Sissoko est suspendu. Mais là, on parlait de sa capacité, une fois qu'il reviendra, à s'intégrer dans le système. Et c'est vrai que j'ai, on en a parlé un petit peu avant l'émission, hein, j'ai des doutes également. Alors, on arrive en termes de temps au terme de l'émission. Je voudrais qu'on aborde encore un point, c'est celui de Benjamin Boussouari. Faut-il chercher un joueur capable de venir le suppléer quand il est blessé, quand il est suspendu, comme ça sera le cas à Auxerre, si je ne dis pas de bêtises, où on va être lourdement handicapé par les suspensions? Ou est-ce qu'il faut trouver simplement une adaptation du système pour pallier une absence de Benjamin Bouchouari, qui se pose déjà quasiment comme un élément indispensable du système? Pat, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais rassuré si on avait un garçon, si on recrutait un garçon qui éventuellement pourrait jouer avec lui aussi, pourquoi pas, mais qui aurait cette capacité à, comme tu l'as dit, à conserver le ballon dans les petits espaces, à se retourner et à enclencher le jeu vers l'avant rapidement?
Rassuré, certainement, puisque ça reste quand même un profil un peu atypique. Hein, on n'a pas beaucoup des joueurs comme ça dans l'effectif capables de faire ça. Je réfléchis, nos deux titulaires du début de saison qui étaient Amogou et Mouefek n'ont pas du tout ce profil-là. Mouefek aurait pu l'avoir sur en étant moins vif, mais peut-être plus endurant sur la distance, peut-être avec un peu plus de puissance. Sauf que clairement, pour l'instant, Mouefek, on le cherche désespérément depuis le début de la saison. Et ces rentrées qu'il a fait sur justement contre Reims, et je sais même s'il est rentré contre Paris, je me souviens même plus, pour moi, ne m'ont pas convaincu. Pour moi, il n'est pas encore dans le même rythme que les titulaires. Donc oui, forcément, ça pourrait me rassurer. Maintenant, ça me paraît compliqué de trouver un joueur d'une telle qualité ou de ayant des qualités sensiblement proches dans un avenir aussi court. C'est pas le genre de recrutement qu'on arrive à faire au mercato d'hiver en général. Donc, si on arrive à trouver un joueur, ce sera plutôt un joueur justement qui sera en manque de rythme ou en manque de temps de jeu et qui aura sans doute pas ces qualités-là. Donc ça me paraît compliqué quand même. Ce serait dans l'idéal effectivement de trouver un joueur de ce genre-là. Maintenant, je pense que Ornelon a peut-être plus l'objectif d'essayer de relancer Mouefek et Amogou. C'est peut-être ce qui est plus sécurisant en tout cas pour lui, peut-être plus sûr en termes de projection dans l'avenir comme facteur de réussite. Oui, je le souhaiterais. Maintenant, j'ai quelques doutes sur le fait que ce soit une réelle volonté du staff d'aller chercher un joueur pareil.
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile, effectivement, comme tu l'as dit, de recruter comme ça un joueur avec ce profil très particulier. On va ajouter aux deux joueurs que tu as cités, Aymen Mouefek et puis Mathis Amogou, on va ajouter qu'il y a Lamine Fomba et puis Florian Tardieu aussi qui peut-être peuvent rendre des services. Pourquoi pas un Fomba transfiguré sous Orneland, ça serait top ça, si ça arrivait. Alors on arrive au terme de l'émission, dernière petite question quand même pour Verivel en terminant. Verivel, on a parlé des latéraux, c'est vrai que ça revient quand même assez régulièrement sur le forum, dans les chats, dans nos discussions, avec Masson qui reviendra à un moment ou un autre de blessure, souhaitons-le, et Pierre Cornu, c'est pas suffisant de ton point de vue qualitativement, il faudrait recruter Petro Cornu à gauche, Masson à Pierre à droite, est-ce que c'est vraiment une priorité selon toi?
En tous les cas, ça ressort un petit peu de toutes les analyses qu'on a depuis quand même un bon moment du niveau au niveau des latéraux. On a parlé un petit peu des limites qu'avait Léo Petro. Ce serait bien que Masson revienne, mais il est fragile, on sait qu'il est souvent absent. Moi, j'aime bien Denis Sapia, on en avait déjà parlé hein, dans l'émission, donc je ne reviens pas là-dessus. C'est vrai que le problème qu'on a, c'est qu'on a du nombre hein, quand même. Donc, on a du nombre. Alors, est-ce qu'on a la qualité? Ça, c'est autre chose, mais en tous les cas, on a du nombre et on voit bien comment est le marché aujourd'hui, le mercato aujourd'hui. Il est vraiment très, très, très fermé pour tout le monde. Je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté, donc tous les autres attendent le dernier moment pour faire des affaires. Je pense que c'est vraiment. Alors, c'était déjà le cas sur les années précédentes et c'est encore plus sur cette année parce qu'on sait qu'avec les problèmes qu'on a sur les droits télé, etc., on sait qu'il y a des clubs qui sont en très grande difficulté, qui vont devoir se séparer de joueurs tout simplement parce que sinon, ils n'arriveront plus à les payer. Donc, tout le monde attend. Donc, il y aura sûrement des opportunités. Je pense que c'est vraiment là la clé de notre mercato. On attend pour avoir le prix le plus bas. Par contre, je pense qu'on a fait tourner les ordinateurs et que du coup, on a nos cibles et qu'on attend juste que tout ça, enfin que les prix baissent le plus possible pour pouvoir agir. Et voilà. Mais je pense qu'effectivement, enfin, moi, ce qui m'embête, j'ai pas envie qu'on empile des joueurs non plus. Comme je disais, on en a quand même d'un des latéraux. Alors, ça serait bien d'en avoir un peut-être en qualité, mais il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un qui apporte une surplus de qualité parce que au niveau du nombre, on est pareil.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ça me paraît quand même difficile de recruter sans libérer certains joueurs, libérer ou transférer. Enfin, en tous les cas, il faudra trouver un équilibre de ce point de vue-là. Voilà, on est arrivé au terme de l'émission. Pat voulait ajouter un dernier truc avant qu'on se sépare.
Très rapidement, moi ce que je souhaiterais surtout, c'est que Eric Horneland ait les moyens de ses ambitions. Alors, mercato d'hiver, ce sera compliqué. Il faudra quand même malgré tout finir la saison avec ce qu'on a, je pense. Par contre, par la suite, il faudra recruter des joueurs aux capacités physiques et techniques nécessaires pour assumer son projet de jeu. Parce que clairement, ce qu'on a vu contre Paris, il risque de se reproduire encore assez souvent, malheureusement, avec des boulevards qu'on laissera derrière.
Oui, moi, de ce point de vue-là, je suis assez optimiste, c'est-à-dire que je pense que Gazidis et Kilmer, ils ont envie de mettre de la continuité et d'apporter des moyens à Orneland, alors probablement sous la forme de jeunes joueurs, encore une fois, mais bon, tout ça, c'est du football fiction, on verra, mais ça me semble être le plus probable quand même. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci de nous avoir suivis, que ce soit en direct ou en podcast. On vous donne rendez-vous très bientôt. Des matchs importants arrivent, à commencer par celui contre Nantes pour confirmer la transfiguration. Allez, on va même aller jusque-là. La transfiguration des Verts sous Horneland. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée et à très bientôt. Allez les Verts.
Allez les Verts.
Allez les Verts.
Allez les Verts.